Jean-François Matignon, la compagnie Fraction sera présente cet été au Théâtre Transversal. Nous allons découvrir Œdipe en quête. Œdipe, c'est à la fois une figure tutélaire de la tragédie antique, c'est aussi une figure tutélaire de la psychanalyse. Est-ce que ce sont ces deux aspects qui vous ont attiré dans le personnage d'Œdipe ?
C'est l'aventure d'Œdipe. Je ne sais pas s'il faut faire une généalogie. Il y a la question que Œdipe formule à un moment, qui est le fameux « qui suis-je ?». C'est parti plutôt de ça, c'est une question d'identité, voilà. Et puis aller à la rencontre d'une figure, effectivement, comme tu dis, mythique, mythologique, et une espèce de colonne vertébrale aussi de la pensée contemporaine, voilà. C'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, on ne va pas aller du côté du complexe, voilà. On va plutôt l'envisager d'un point de vue historique, et puis comme il y a plusieurs versions, plusieurs hypothèses du récit, de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la question des responsabilités, on est plutôt parti de ce côté-là. Mais pour, au bout du compte, aboutir à des questions éminemment de l'ordre de l'intime, voilà, oui.
Le titre, c'est Œdipe en quête, et pendant tout le spectacle, Œdipe cherche le meurtrier de Laïos. Dans les textes dont vous vous êtes inspiré, puisque on retrouve votre goût et votre pratique et votre art du collage de textes, il y a certes Sénèque, il y a Pasolini, mais il y a aussi un polar au départ.
Il y a une vingtaine d'années maintenant, Didier Lamaison, qui est un universitaire, a écrit et publié dans la série noire chez Gallimard, la fameuse série noire, un livre intitulé Œdipe roi, qui est une réécriture de l'Œdipe roi de Sophocle, voilà. La trame est la même, mais en plus, il s'est permis d'inventer, de développer des choses qui sont juste esquissées. Ça donne de l'épaisseur au personnage. Ça injecte quelque chose, on va dire, qui est aussi plus engagé charnellement, quelque chose de plus lyrique au bout du compte. Là où chez Sophocle, on est vraiment dans le débat d'idées, il y a quelque chose de beaucoup plus incarné et qui m'a séduit. Ouais.
Dans le spectacle, certes, il y a Œdipe, il y a Jocaste également. Ouais. Il y a également Tirésias qui joue un rôle très important, qui est à la fois devin et aveugle.
Absolument, bah oui, ça a été un choix de départ, c'est-à-dire qui mettre un petit peu en face d'Œdipe, et Tirésias a une place capitale dans l'histoire. Hein. C'est le devin aveugle, celui qui sait et qui voit avant les autres, qui dit à Œdipe, voilà, c'est ça la vérité, moi qui ne vois pas, je le sais, je le vois, je te le dis. Et Œdipe, qui voit lui, découvrira la vérité, s'aveuglera, et au bout du compte, oui, Tirésias savait, voilà. Et en plus, Tirésias, il est très intéressant, ça évidemment, on le connaît un petit peu moins, mais dans la mythologie, c'est un personnage qui traverse cette expérience quand même étrange et envoûtante, qui est de changer de sexe, voilà. Et donc, il fait un aller-retour du masculin au féminin et un retour au masculin, voilà. Tout ça pour des raisons de jalousie, mais ça, les histoires mythologiques, de toute façon, sont bourrées d'histoires de jalousie. De fait, il a une connaissance des deux côtés de la montagne, on va dire, voilà. Et notamment la question physique, la question du plaisir, ces choses-là qui sont éminemment d'actualité aujourd'hui. Il les a traversées. Donc il est détenteur d'un certain savoir qui lui donne une distance par rapport aux événements et en même temps une clairvoyance. Et puis de toute façon, oui, aller à la rencontre d'Œdipe, c'est aussi aller à la rencontre de tout un pan de l'histoire des arts du XXe siècle. Hein, voilà, parce qu'on ne peut pas ignorer, on ne peut pas oublier l'Œdipe roi de Pasolini. Donc Tirésias, dans l'Œdipe roi de Pasolini, c'était Julian Beck, c'était le patron du Living Theatre. Et ça m'intéressait aussi d'aller à la rencontre de cette mémoire-là.
Vous m'avez parlé de double, vous m'avez parlé de masculin et de féminin. Si je me souviens de votre vision de quartet, oui. D'Abraine et Hermuller, on avait un acteur qui incarnait deux personnages, et notamment un personnage féminin. Et là, dans le spectacle, à un moment, il y a un coup de théâtre, c'est-à-dire que, sans trop dévoiler, le personnage change.
Voilà. Ben on le dit dès le départ, hein. De toute façon il n'y a pas de mystère, Œdipe est double. Il est en permanence tiraillé entre deux extrêmes, il y a le sacré, le saint et la souillure. Voilà. C'est ça son parcours, hein. La vérité qu'il découvre, la responsabilité de ce qu'il a fait, l'amène à être envisagé par la cité de Thèbes comme une souillure qu'il faut éliminer pour que la cité retrouve la paix et l'apaisement. Et dans l'œuvre mythologique, enfin bon, parce qu'on connaît beaucoup l'Œdipe III, mais il y a un autre Œdipe après, l'Œdipe à Colonne, où Œdipe, devenu aveugle et ayant quitté Thèbes avec sa fille Antigone, devient un errant, un poète, comme ça, voilà, il marche sur les routes et jusqu'à Colonne où il mourra. Mais à ce moment-là, son destin aura changé totalement. Il sera devenu comme une espèce de valeur refuge. Les cités se battront pour avoir sa présence. Sa présence étant comme une espèce de protection contre le malheur. Donc il a ce parcours absolument étrange d'être de la position du bouc émissaire à une entité sacrée. Mais bon, tout ça, ça nous parle d'un être fracturé. Je crois profondément à Janus. Voilà, on est double. C'est une question de personnalité, c'est une question d'identité. Et mettre les mains dans le cambouis, c'est ce qui a de toute façon nourri beaucoup de spectacles, et encore une fois, là. Voilà.
Alors, le thème du double, le thème du changement de personnalité, ça anime vraiment votre travail. Là, le spectacle est interprété par trois piliers, on pourrait presque dire, de la compagnie, Michel Derlac, David Harib et Thomas Rousselot. Et puis, quand on connaît un peu votre travail, on voit déjà des éléments de Fraction et de Matignon. l'allusion au cinéma, puisqu'il y a de la pellicule, de la pellicule argentique sur le plateau. Mmh. Et il y a aussi votre goût pour l'obscurité, traversé par des rayons de lumière. Mmh. Il y a la figure de l'enfant, du pantin, qui est vraiment une sorte de leitmotiv dans chacun de vos spectacles. Il y a même des éléments de décor, tout à coup, qui se soulèvent. C'est presque une sorte de manifeste de la compagnie Fraction, ce spectacle, je trouve.
Je le prends pour un compliment. Je le prends pour un compliment. Oui, en tout cas, c'est la croyance. C'est obstinément creuser le même sillon à l'endroit des thèmes. Mais ça, on n'y peut rien. Enfin, je pense qu'on n'explore pas beaucoup de domaines dans sa vie. Voilà, mais qu'on fouille, on fouille, on fouille. Et je crois profondément au fait de faire revivre les éléments, les matières. Ils sont porteurs d'une histoire, ils ont vécu. On les réinvente en permanence. Oui, François Tanguy, qui a disparu il y a quelques mois, parlait de la mémoire. Oui, mais il faut conserver la puissance de la mémoire avec la mémoire devant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose de nostalgique. C'est simplement construire avec ce qu'on a fait l'avenir et le futur. Et que tout ça se fasse aussi avec, comme viatique pour la route, une foi profonde dans la beauté et dans l'art. Il y a cette fameuse phrase de Dostoïevski, je ne sais même pas s'il l'a dit, « La beauté sauvera le monde ». Je pense qu'il ne faut pas être bisounours, la beauté ne sauvera pas le monde, parce que le monde est trop barbare, malheureusement, mais que malgré cela, avoir comme objectif d'instiller, d'insuffler, de vivre avec la poésie et la beauté, et faire surgir des moments uniques visuellement, oui. Alors oui, il y a la littérature, il y a le théâtre, il y a le cinéma, même aller jusqu'à mettre de l'argentique sur le plateau, c'est pas du tout un manifeste anti-numérique, hein. Mais voilà, il y a ce fil, hein, c'est comme les trois femmes dans la mythologie qui tiraient le fil de la vie, qui à un moment coupaient, hein. Le monteur au cinéma, il coupait dans la pellicule et puis il assemblait, il inventait des histoires de cette manière-là. Et moi, je crois beaucoup au fragment, l'éloge du fragment, on compose avec plein de choses. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, il faut assembler, changer, ajuster pour essayer de faire jaillir de la poésie. J'y crois plus que jamais.
Vous parlez de fragments, c'est vrai que dans le spectacle, on voit arriver l'homme au pied enflé. C'est la première définition d'Œdipe. Alors évidemment, tout de suite, on imagine l'Antiquité, la période de Sophocle et de Sénèque. Après, c'est le spectateur qui travaille. Et puis après, il y a quand même des signes. Déjà, la pellicule, évidemment, c'est pas l'Antiquité. Et puis, il y a certains costumes qui nous ramènent tout à coup presque à la Renaissance, à la Saint-Barthélemy. Oui. C'est-à-dire que vous jouez aussi un peu avec les époques.
Oui, alors le spectacle n'est pas daté, ou alors il est daté de plein de moments différents. Effectivement, je ne sais pas où est la trace de l'antique dedans, mais disons, oui, les pieds nus, les pieds souillés, les chemins de graisse parcourus où on s'écorche les pieds. Donc il y a de ça. Mais oui, il y a un vêtement qui évoque un petit peu la Renaissance. Alors c'est une piste esthétique, moi, qui m'intéresse toujours beaucoup. Puisqu'on parle cinéma, je sais pas, on peut penser à la Reine Margot, enfin à la présence de Virnalisi en Catherine de Médicis, comme ça. Oui, donc il y a quelque chose un peu comme ça avec Jocaste. Et puis il y a des choses qui sont résolument contemporaines, parce que je pense que le spectacle parle aussi de choses résolument contemporaines, malheureusement, et notamment tous les dégâts climatiques. Enfin, dans l'histoire d'Œdipe, quand la pièce commence, parce que des fléaux se sont abattus sur la ville, il fait chaud, c'est des canicules successives, les morts s'entassent dans les rues, et tout ça, au bout du compte, est causé par la cécité des hommes. Et quand on voit aujourd'hui peut-être l'attitude de nombreux politiques, la lenteur avec lesquelles les choses se mettent en place, on est évidemment en face d'une question de cécité. C'est pour ça d'ailleurs que je tenais à entamer le spectacle avec quelques mots qui sont absolument pas ni de Sénèque, ni de Didier Lamaison, ni de Pasolini, mais de Döblin, d'Alfred Döblin, l'auteur de Berlin Alexanderplatz, dont Fassbinder avait tiré un film absolument magnifique, et qui au début du XXe siècle avertit les hommes du danger de tout ce qui va arriver. Voilà. Et malheureusement, on est dedans. Donc oui, c'est un patchwork d'époque. En tout cas, moi, je me sens totalement composé d'éléments divers et variés. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'aujourd'hui, mais en même temps qui est tellement nourri du passé. Et voilà, donc c'est pas du tout un éloge du passé, hein. C'est vraiment une foi profonde dans l'avenir, mais que c'est, l'avenir se construit avec ce qui a été.
On apprend ou on retrouve beaucoup de choses sur Œdipe, notamment, bah, il a tué son père, mais il ne savait pas que c'était son père. Il a épousé sa mère, il ne savait pas que c'était sa mère. En plus, il a épousé sous la pression populaire, hein, pour des raisons purement politiques. Et finalement, cet homme, il est victime de la vindicte populaire, c'est-à-dire un peu de la rumeur. Les rumeurs, en ce moment, elles sont absolument catastrophiques avec les réseaux sociaux. Et il y a cette phrase, qui, je crois, c'est l'une des dernières, sinon la dernière phrase du spectacle, « Seul le poète peut dire le sacré ». Ouais. C'est vrai que des poètes, en ce moment, les vrais poètes, on ne peut pas dire qu'on les entende beaucoup. Alors, lorsqu'ils s'expriment, on a tendance à leur tomber dessus.
Absolument. Oui, il y a un court texte à la fin, écrit par Jean-Luc Godard, et qui est extrait du texte de son film « Histoire du cinéma ». Qu'une comparaison entre les œuvres, mais qui était un grand mixage d'images, d'extraits de films, de musique, de texte, voilà, pour essayer de passer à sa moulinette poétique, on va dire, toute l'histoire du XXe siècle. Oui, il y a les poètes et il y a le sacré. C'est une des colonnes vertébrales du spectacle et qui est portée beaucoup par la figure de Pasolini, qui n'est pas directement évoquée au plateau, mais dont on a deux extraits de texte au milieu du spectacle. Le fameux texte sur les Lucioles, qui est très connu, qui a été utilisé dans de nombreux spectacles, voilà, mais qui est vraiment une parole déflagrante sur ce qu'on vit actuellement, sur la question de la marchandisation de la nature et des êtres, et de la constatation de la marchandisation, qui n'est pas du tout un rejet de toutes ces choses-là, mais qui est simplement le fait que de transformer l'humain, le naturel, en objet, on ne peut qu'éprouver du dégoût face à ça. Voilà. Et ça, Pasolini l'a porté haut et fort, et la vision qu'il avait du sacré, qui n'était pas du tout quelque chose de religieux, non, pas du tout, c'était simplement, comment dire, une foi profonde dans l'histoire, dans l'endroit d'où viennent les hommes, toute la tradition dont ils sont porteurs, leur histoire, et un rapport au monde direct, pas du tout passé par le filtre de l'économie, ce qui au bout du compte est une revendication éminemment politique, c'est quand est-ce que le politique va reprendre le pas et le pouvoir sur l'économique. Voilà, je pense que le monde irait beaucoup mieux.
Alors, Jean-François, je connais depuis des années, je connais bien votre travail, on peut dire que vous gardez le cap. Et là, ce spectacle, c'est vraiment un travail à l'os. Il y a le minimum sur le plateau, enfin, le minimum au niveau des effets. C'est vous, c'est percutant. Vous êtes au Théâtre Transversal, qui est un petit théâtre, je parle au niveau des moyens et de l'ouverture de scène. Ce serait là pour cet été, pendant le Festival d'Avignon. C'est un acte de résistance, c'est un acte d'existence, c'est un acte de survie. Cette présence de ce spectacle-là, qui vous colle à la peau, qui vous représente à 100%, cette présence à Avignon cet été.
Ça fait plusieurs années que Laetitia Mazzolini, qui dirige le Théâtre Transversal, m'avait invité. Après, effectivement, le transversal, la superficie du plateau implique qu'on ne peut pas y faire tout et n'importe quoi et qu'il fallait trouver la manière de le faire. Alors, il y a ça d'une part. Après, il y a une autre chose importante pour moi, c'est que les temps changent et qu'effectivement, les moyens de travailler de la compagnie aujourd'hui, en 2023, ne sont pas du tout les mêmes qu'on avait encore en 2017. Il semblerait qu'il y ait une partie des tutelles qui pensent, qui estiment que peut-être notre temps est passé et que voilà, il faut passer à d'autres le relais, ce que je comprends parfaitement parce qu'il y a une vingtaine d'années, on s'est battu corps et âme pour accéder à des moyens de travailler. Simplement, je pense que les tutelles se distinguent toujours par un manque, comment dire, de finesse et qui font un petit peu les choses à contre-temps. Et que nous, de notre côté, il n'y a pas que moi, hein, parce que Fraction, c'est un collectif, un petit collectif, mais un collectif, et qu'on a décidé de ne pas baisser la garde. C'est pas qu'on a encore des choses à dire, mais qu'il semble que le sillon que, obstinément, j'essaye de creuser depuis des années, il palpite et il témoigne au contact du monde actuellement. Voilà. Avec des moyens, c'est vrai, moindres, on a réussi, vous le dites, à coucher de quelque chose qui est à l'os, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre qu'il y en ait trop. On est limite en termes de réalisation du spectacle à l'intérieur de cet espace, mais je sais qu'on va le faire, donc ça crée une sorte de tension positive portée par une foi inébranlable dans le théâtre, parce que j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Mais oui, tout à l'heure, vous parliez de manifeste, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, oui, il y a l'essence de notre travail, et je tiens vraiment à ce que la présentation de ce spectacle, ce soit Oedipe Enquête, un spectacle de la compagnie Fraction, mis en scène par Jean-François Matignon. C'est-à-dire que le spectacle ne serait pas ce qu'il est si tous ceux qui sont au plateau, David, Thomas, Michel, Michel Milivojevitch, dont il faut parler parce qu'elle a bas un boulot monumental en lumière, en son, et puis on travaille tous les deux sur la scénographie. Sans eux, ça ne serait pas ce que vous avez découvert en filage. Oui, je suis heureux de ce spectacle. Ouais.
Ben moi, j'ai découvert Jean-François Matignon, Cœur antique.
Oui, oui. C'était une des hypothèses de travail, c'est-à-dire que le travail au plateau soit accompagné d'un regard extérieur. En 2018, on a fait un travail qui était vraiment juste un maillon de la chaîne qui n'a existé que le temps de le faire et de le jouer quelques fois au Théâtre des Carmes chez Sébastien Benedetto, qui s'appelait Le Point du Jour, et qui, après l'expérience puissante, mais dont on n'est pas sorti indemne, de La Fille de Mars dans le Hin en 2017, il y avait besoin de faire le point. J'avais pas envie de le faire d'une manière théorique, j'avais envie de le faire de manière pratique au plateau. Donc on a bâti très vite cette fiction d'un groupe de théâtreux, même si j'aime pas le mot, mais de groupes de gens de théâtre qui sont en répétition pour réfléchir à notre pratique. Ça s'inscrit un peu dans la suite de ça. C'est-à-dire que c'est une manière de mise en abyme.
Le spectacle finissait par à suivre, si ma mémoire est bonne.
Absolument. Bonne mémoire. Oui, c'était à suivre. On ne l'a pas mis au début, mais il pourrait y être. C'est-à-dire que c'est à nouveau une exploration de la manière de travailler. Alors, tout à fait marginal par rapport à tout ce qui se passe au plateau, mais quand même, malgré tout, c'est vrai que je prends la responsabilité de dire des choses et d'intervenir à des moments pour soit apporter du matériau aux acteurs, soit pour émettre des hypothèses sur ce qu'est notre manière de raconter l'histoire d'Oedipe, étant entendu qu'il y a plein de versions différentes dessus. Et qu'il ne s'agit pas de condamner un tel ou une telle, il s'agit de se dire que ce qui s'est passé, on le sait, mais comme avait dit Jean Renoir, tout le monde a ses raisons dans la règle du jeu, et que c'est bien l'essence de la condition humaine.
Belle été cet été au Transversal.
Merci beaucoup, Michel.